Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire de ce journal, présentation hier vendredi à Kinshasa du projet du budget de l'année 2024 de la RDC, peu avant l'ouverture de la session ordinaire de la dernière mandature de la troisième législature. Fixé à près de 16,6 milliards de dollars, les principales priorités de ce budget sont la sécurité et la défense nationale, l'éducation, la santé, la diversification de l'économie ainsi que les infrastructures. Au Nord-Kivu, le président des sites déplacés en territoire de Nyiragongo appelle à une assistance urgente en abri en faveur des milliers de déplacés dans le site de Bouchagala. La pluie diluvienne qui s'est abattue dans la zone la nuit de mercredi à jeudi dernier a emporté et détruit des centaines d'abris de fortune dans ce site. L'invité de ce journal est le président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, Azadou. Jean-Claude Katende revient sur l'arrestation du journaliste Tani Boudjakira et appelle les autorités à promouvoir la démocratie à l'approche des élections. Encore une fois, merci d'être avec nous. Bonjour et bonne écoute. 40 463 milliards de francs congolais, soit environ 16,6 milliards de dollars américains. C'est le montant du budget pour l'exercice 2024 de la République démocratique du Congo. C'est hier, vendredi, que le Premier ministre a déposé le projet du budget 2024 au Parlement, peu avant l'ouverture de la session ordinaire de la dernière mandature de la troisième législature. D'après Jean-Michel Samalou Kondé, la sécurité et la défense nationale, l'éducation, la santé, la diversification de l'économie ainsi que les infrastructures sont les principales priorités de ce budget. Le chef du gouvernement se félicite du dépôt de ce budget dans le délai constitutionnel. Jean-Michel Samalou Kondé est au micro de Michel Kifindangoy.
Je voudrais d'abord ici mentionner que obligation constitutionnelle, c'est l'article 126, l'alinéa 3, qui demande au gouvernement de la République de déposer le projet de budget plus tard le 15 septembre de l'année. Dans le cas précis, trois rendez-vous pris, 15 septembre 2021, 22 et aujourd'hui 15 septembre 2023. Rendez-vous rencontré et respect de la Constitution dans le cadre de la présentation de ce projet de budget. Pour celui-ci, il est en hausse de 24,7% par rapport à l'exercice budgétaire 2023. Ici, je voudrais revenir sur les priorités. Nous avons bien sûr le secteur de la défense, la gratuité de l'enseignement qui doit se poursuivre, la couverture santé universelle avec cette innovation sur la gratuité de la maternité, la diversification de notre économie avec plus de moyens à l'agriculture, à la pêche et l'élevage, mais aussi à l'industrie avec les nouvelles zones économiques spéciales et garder un accent sur ce qui est des infrastructures.
Et dans la province de la Tchopo, un projet d'édite sur la production et la consommation du bois énergien est en gestation à l'Assemblée provinciale. Une copie de ce document a été remise jeudi dernier au président de l'organe délibérant par une équipe d'ICIFOR en charge de la filière bois-énergie dans le paysage de Yangambi. Des explications avec Jacques Moukonkolé.
La filière bois-énergie nécessite des textes adaptés pour être mieux gérée, raison pour laquelle le CIFOR travaille en collaboration avec les députés provinciaux sur un projet dédié y afférent. Ce document édicte notamment des mesures incitatives pour les entreprises de production des foyers améliorés. Cette initiative est appréciée par le président de l'Assemblée provinciale, Gilbert Bokungu Isongibi, en énumère quelques avantages.
Moi qui avais acheté même les foyers améliorés, j'ai diminué les dépenses par rapport à l'achat des braises. Et notre avantage, c'est que ça nous a permis d'aller un peu plus loin jusqu'aujourd'hui à l'établissement d'une proposition dédiée qui doit pratiquement réglementer la filière des bois énergie dans la province de la Tchopo. Et cela nous permettra également de réduire la surexploitation forestière naturelle pour que l'écosystème soit pratiquement sauvegardé. Je suis vraiment très content de ces gestes.
Cette disposition encourage également la vulgarisation des techniques de plantation des arbres à croissance rapide. Le projet sera examiné à la rentrée parlementaire de ce mois de septembre, a déclaré le président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, des agents et fonctionnaires de l'État ont renoué hier vendredi avec la tenue des assemblées générales à la place dénommée Golgotha dans la commune de la Gombe. À l'initiative de la synergie des organisations syndicales et sociales de la RDC, il reproche au gouvernement le non-respect des engagements pris avec le banc syndical Amboudi 1, 2 et 3, tout comme Ambrella Lodge 1 et 2. Pour remettre les pendules à l'heure, ces travailleurs du secteur public demandent à l'exécutif national de convoquer les assises de la politique salariale avant décembre prochain. Plus de détails avec Blaise Dongala Mayanda.
Après plusieurs années de trêve, les agents et fonctionnaires de l'État ont repris ce vendredi les rencontres à la place Golgotha pour réclamer l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Mobilisés par leurs différentes organisations syndicales, ils recommandent au gouvernement d'engager les réformes courageuses réduisant sa taille et d'autres institutions. Face à la modicité des salaires des agents de l'État, ces travailleurs du secteur public appellent au paiement d'un barème salarial digne en offrant des avantages sociaux uniformes pour tous, comme indique le porte-parole de la synergie des organisations syndicales et sociales de la RDC, Jean Bosco Pouna.
La synergie des organisations syndicales et sociales invite tous les agents et fonctionnaires de l'État sur l'étendue du territoire national à se mobiliser pour contraindre le gouvernement de la République à accorder un nouveau barème avant décembre 2023.
Ces fonctionnaires et agents de l'État ont également plaidé pour la dépolitisation des entreprises et administrations publiques, la territoriale y compris. Ils ont par ailleurs recommandé la régularisation de la situation administrative des nouvelles unités et vents dans les services publics. Les dossiers des infirmiers et autres personnels de santé en grève s'est en outre invité dans cette Assemblée générale.
Au Nord Kivu, le président décide de déplacer en territoire de Nyiragongo, appelle à une assistance urgente en abri. C'est en faveur des milliers de déplacés qui passent la nuit à la Belle Étoile, notamment dans les sites de Bouchagala. La pluie diluvienne qui s'est abattue sur la zone la nuit de mercredi à jeudi dernier a emporté et détruit des centaines d'abris de fortune dans ces sites. Théo Moussekoura demande particulièrement au gouvernement congolais soit de trouver une solution urgente à cette situation, soit d'organiser en collaboration avec des humanitaires le retour de ces déplacés dans leur milieu d'origine. Ces propos ont été recueillis par Bernardin Nyangui.
La pluie d'hier a sérieusement détruit les abris des déplacés. Les bâches sont complètement en lambeaux et les autres ont été emportés par le vent et d'autres abris endommagés par les arbres qui sont tombés pendant la tempête. C'est pour dire qu'en ce moment, nombreuses familles des déplacés sont sans abri. Les autres essayent de recoller les morceaux de bâches pour reconstruire, mais c'est difficile. Je demande aux ONG humanitaires et à notre gouvernement de suivre cette situation de près et venir en aide aux déplacés. Aussi, nous leur demandons de vite restaurer la paix dans nos villages pour nous permettre d'y retourner et reprendre la vie normale, car les conditions se dégradent dans ces camps des déplacés.
Notez que les comités de déplacés des sites localisés autour de Kanyarutinya indiquent que les dernières bâches reçues en assistance il y a plus de 6 mois sont déjà en lambeaux, ce qui accroît la vulnérabilité des déplacés en cette saison pluvieuse. Toujours au Nord Kivu, Médecins sans frontières s'est dit préoccupé par le nombre de plus en plus élevé des cas de violences sexuelles dans les sites des déplacés autour de Goma. C'est dans le territoire de Nyiragongo et dans l'ouest de la ville de Goma. Selon son rapport rendu public jeudi dernier, l'ONG humanitaire parle d'au moins 1500 femmes violées au cours du seul mois de juillet dernier dans 6 sites où interviennent ses équipes. Médecins sans frontières appelle à une mobilisation de tous contre cette violence. Des détails avec Bernard Denyangui.
Chaque jour, c'est au moins 70 femmes victimes d'agressions sexuelles qui se présentent dans les structures mobiles mises en place par MSF dans les sites de Lushagala, Bulengo, Elohim, Shabindo, Rusayo et Kanyarutinya, indique ce rapport. Le chef de mission MSF à Goma, qui parle d'une situation inacceptable, appelle à une mobilisation pour la protection surtout des femmes déplacées. Rasmane Kabore.
Les violences sexuelles deviennent compliquées avec beaucoup plus d'agressivité. Elles sont dues en dehors des camps quand elles se rendent en brousse pour chercher du bois et aussi parce qu'il n'y a pas de protection dans ces camps. Les autres organisations humanitaires ainsi que le gouvernement doivent doubler d'efforts afin d'améliorer durablement les conditions de ces personnes qui présentement vivent dans des situations inacceptables.
Rappelons que depuis plusieurs mois, les déplacés autour de Goma reçoivent de moins en moins de l'assistance en vivre et non vivre. Ils sont du coup obligés de chercher le moyen de survie dans des conditions très risquées, ce qui a pour conséquence l'exacerbation de leur vulnérabilité. Les sources humanitaires dans le site de Kanyarutinya indiquent que la préparation de la distribution des 180 tonnes de vivres et de non-vivres déjà acheminées à Goma dans le cadre du deuxième pont aérien de l'Union européenne est toujours en cours. Goma, Bernardin Yangi, Radio Okapi.
Retour à Kinshasa où la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies a rencontré jeudi dernier le ministre de la décentralisation et des réformes institutionnelles. C'était pour échanger sur la revisitation de la coopération entre ce ministère et le système des Nations Unies en cette période particulière des transitions précédant le retrait de la MONUSCO. En cette même journée, la question de la mise en œuvre effective de la décentralisation à travers le territoire national a été portée auprès du ministre Eustache Mouhanzi par le chef traditionnel Mwami Wihala Godefroy Junior Munongo de la chefferie des Bayeke en territoire de Lobudi dans la province de Lualaba. Les motivations de l'intérêt accordé à la décentralisation par ses personnalités en ce moment dans cet élément que nous propose Billy Van Lutumba.
Le ministre Eustache Mouhanzi a d'emblée insisté sur le fait que la décentralisation demeure le socle du développement à la base. Il a démontré les principaux objectifs de la politique de décentralisation, notamment l'indispensable rapprochement entre l'administration et les administrés en vue d'optimiser la cohésion démocratique et créer par la même occasion des centres d'impulsion du développement local du territoire qui répondent aux préoccupations des populations. Ainsi, face aux acquis de l'effectivité de la décentralisation dans les ETD, dans le cadre du plan de transition et départ accéléré de la MONUSCO, Maître Eustache Mouhanzi a invité la représentante du secrétaire général de l'ONU en RDC à une bonne gestion de cette période transitoire, ce face à l'équilibre qui est né entre les ETD et la MONUSCO. À cette recommandation, Bintou Keïta a promis à son interlocuteur un retour à la table d'échange. Lors de son échange aussi avec le ministre, Mwami Wihala Mulongo a présenté les défis majeurs auxquels fait face le territoire de Lubudi.
L'innovation que nous avons, qui nous aide beaucoup aujourd'hui, c'est les lois d'accompagnement qui nous permet de nous développer à la base et très vite avec beaucoup d'innovation. Par ailleurs, il y a toujours des blocages et des pesanteurs, mais grâce à un ministre de ce genre, ministre d'État, on va aller encore plus vite pour le développement de la République.
Ces défis relevés, le ministre affirme de son engagement à rendre effectif le processus de transfert des compétences et des ressources aux provinces et ETD conformément à la politique gouvernementale en la matière.
Et puis la deuxième partie du forum régional sur le Grand Lac s'est ouverte hier vendredi à Kinshasa. L'objectif poursuivi est la mise en place de mécanismes régionaux de suivi des minerais et aussi des solutions durables pour un commerce responsable de l'or artisanal dans la région des Grand Lacs. Il est organisé par le secrétariat de la CRGL et le gouvernement congolais en vue de contribuer aux efforts du secteur aurifère comme moteur de croissance économique et de développement dans cette région. Jeff Opela nous en dit plus.
Les États membres sont invités à renforcer la coopération sincère entre eux pour éviter les fléaux qui plombent la région des Grands Lacs. Antoine Samba, ministre des Mines de la RDC.
Point n'est besoin encore de vous rappeler le contexte ayant conduit à la création de cette institution régionale qu'est la CIRGEL, devant servir de cadre approprié pour renforcer la coopération sincère entre les États membres afin de lutter efficacement contre les fléaux qui plombent notre sous-région, à savoir notamment les conflits armés, la fraude et la contrebande minière ayant entraîné des conséquences néfastes sur notre population.
Pour sa part, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU en charge de la région des Grands Lacs invite les pays membres au respect des recommandations adoptées. Joanne Sia.
Les Nations Unies, par ma voix, lancent un appel solennel à tous les États membres de la CIRGL à mettre en œuvre sans délai et de façon uniforme dans tous les pays la stratégie régionale sur l'art artisanal et le système de traçabilité qui en découle.
La clôture officielle est intervenue après présentation et adoption des recommandations et du plan d'action régional soutenu par les différents partenaires.
Les travaux de construction du centre financier de Kinshasa avancent à grands pas. D'après les ingénieurs, le taux d'exécution est estimé à près de 75% après 11 mois de travaux. Selon Tourane Mildon, président du conseil d'administration de Milvest, filiale de Miller Holding, une firme internationale turque, la remise officielle des clés interviendra le 2 décembre prochain. Fruit de la coopération entre la RDC et la Turquie, cette méga structure en construction située entre le palais de justice, le ministère des Affaires étrangères, la fonction publique et l'Athénée de la Gombe comprendra à son sein 6 grands immeubles. Jeudi dernier, la firme Milvest a organisé une visite à l'intention de la presse. Jacques-Yves Molima signe ce reportage pour le compte des Radio Okapi.
Le bâtiment ici, c'est le bâtiment A.
Et aussi un bâtiment B. Ce sont donc deux tours jumelles de plus de 15 niveaux situées en face du palais de justice. Ils abriteront les ministères des Finances et du Budget et autres bureaux d'utilité publique, suivis des quatre autres immeubles.
Et ça, c'est l'hôtel.
Hôtel 5 étoiles de 19 niveaux comprenant 240 chambres. Et puis vient la grande salle des congrès. Ensuite, il y a deux immeubles avec des appartements.
Juste en bas, il y aura au rez-de-chaussée. Ici, il y aura un restaurant. Tout sera donné à la location.
Des Devant les bâtiments, une grande fontaine de près de 3000 m² est aménagée et puis...
Il y a aussi une place pour le paysage. On va planter des arbres, on va planter du flair.
On y trouvera également plusieurs parkings dans certains souterrains pour une capacité de près de 1200 véhicules. Selon le président du conseil d'administration de Milvest, Tyrone Mildon, le coût global des travaux s'élève à 290 millions de dollars américains exclusivement déboursés par l'entreprise turque. Cependant, les clauses de contrat conclues entre la RDC et la Turquie stipulent que toutes ces infrastructures de haute facture seront la propriété de la RDC après 49 ans de gestion par l'entreprise turque Milvest. Toutefois, des ressources générées par ce complexe, la partie congolaise bénéficiera de certains pourcentages.
Notons qu'en plus de ces infrastructures, les partenaires turco-congolais prévoient également la reconstruction de l'aéroport d'Ndjili, la réhabilitation de la foire internationale de Kinshasa, la construction d'un aréna à côté du stade de Martyrs et enfin la ligne téléphérique de l'Unikin. Soulignons également que plus de 3000 ouvriers, dont 1200 Turcs et plus de 1800 Congolais travaillent jour et nuit dans ce chantier.
Actualité internationale.
Au Congo-Brazzaville, l'Alliance pour l'alternance démocratique en 2026 propose une transition démocratique pour remettre le pays sur les rails. La dernière née des plateformes de l'opposition congolaise animée hier vendredi 16 septembre une conférence de presse à Brazzaville. Elle affirme que le pays se trouve dans ce qu'elle appelle un marasme politique et économique. Au Gabon, la transition se poursuit et les discussions sont en cours pour notamment nommer les membres du Parlement et des transitions. La charte constitutionnelle sur laquelle le nouveau chef de l'État, le général Oluyi Nguema a prêté serment prévoit 70 membres à l'Assemblée et 50 au Sénat. Les arbitrages sont en cours, mais tout n'est pas simple.
L'invité
de ce journal est le président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, AZADO. Jean-Claude Katende revient sur l'arrestation du journaliste Sani Boudjakera, directeur de publication adjoint de Actualité.cd et correspondant des Jeunes Afrique à Kinshasa. Il s'entretient avec Grace Amzati.
Maître Jean-Claude Katende, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre réaction à l'arrestation du journaliste Sani Boudjakera depuis le vendredi 8 septembre?
Ma réaction, elle est celle d'un homme qui est déçu. Parce que j'estime personnellement que quelqu'un comme Sani Boudjakera, c'est un journaliste qui fait un travail appréciable, non seulement pour le pouvoir, mais aussi pour l'opposition, mais pour l'ensemble de notre société. On pouvait tout simplement lui adresser une invitation, un homme libre, et l'inviter à venir donner des explications sur les faits qui sont mis à sa charge. Mais ici, le fait de l'avoir pris à l'aéroport alors qu'il était en train de partir pour un voyage de travail, j'estime personnellement que c'est une déception totale, surtout quand ces genres d'actes viennent d'un régime qui avait toujours chanté l'état de droit et les droits et libertés des citoyens.
Il est en détention parce qu'on lui reproche des propagations, des faux bruits et des fausses nouvelles. Est-ce que c'est la sanction appropriée?
D'abord, il est clair pour moi que si on parle de faux bruits et de fausses informations, on sous-entend qu'il y a une comparaison et qu'il existe de vrais bruits et de vraies informations. Et aujourd'hui, est-ce que la justice congolaise ou les autorités de la République sont-elles capables de nous dire par rapport au dossier Chérubin Okende quels sont les vrais bruits et quelles sont les fausses informations? Mon analyse des faits, il ressort que l'article dont il est question est basé sur un rapport qui viendrait de l'ANR. Mais l'ANR dit que ce rapport n'est pas un vrai rapport. Mais l'ANR, est-ce que peut-elle mettre à la disposition des citoyens le vrai rapport? Parce que l'ANR a travaillé aussi sur cette question. Mais nous savons que c'est dans la pratique de l'ANR de toujours, quand un rapport interne fuite, de pouvoir nier que c'est pas le rapport. Et je me rappelle en 2016, quand les opposants politiques et la société civile s'étaient réunis sur l'île des Gorées, l'ANR avait fait un rapport sur cette question-là et avait demandé qu'on nous arrête. Une fois que nous avions commencé à critiquer le rapport, l'ANR l'avait nié. Mais les gens de l'ANR doivent savoir que tout le monde qui est à l'intérieur là-bas de l'ANR ne partage pas les violations des droits de l'homme, les injustices que l'ANR commet. Il y a des personnes qui sont fatiguées de ce système-là et ces personnes sont capables de sortir des rapports pour que ces rapports soient connus de tout le monde. Maintenant, est-ce que la République gagne en condamnant ou en amenant en justice Stanley Boutsakera? Parce que d'abord, il n'est pas prouvé que c'est lui qui a signé l'article. Donc, il est question ici des bons sens. Et les bons sens pour moi, c'est que le régime Tshisekedi doit comprendre que s'attaquer régulièrement aux journalistes, s'attaquer régulièrement aux défenseurs de droits humains, les fait discréditer sur le plan national comme sur le plan international. Et donc, le conseil que nous avons et ce que nous demandons, c'est qu'on les libère. Parce que le travail qu'il fait, c'est un travail qui se base sur l'article 29 de la Constitution de la République démocratique du Congo qui garantit la liberté de la presse. Parce que dans ce pays ici, si nous prenons les journalistes, n'est-ce pas, proches de la majorité au pouvoir, certaines choses que ces journalistes disent contre les opposants mériteraient d'aller en prison. Mais on ne les a jamais inquiétés. Pourquoi alors utiliser pour le même travail deux poids, deux mesures? Ça ne marche pas.
Quel message avez-vous à lancer pour aboutir à des élections apaisées?
Nous avions à l'époque alerté sur cette tendance à brimer les journalistes, à brimer l'opposition et à brimer, n'est-ce pas, les acteurs de la société civile. Qu'on évite le plus possible de régler des comptes aux gens parce que ces gens-là ont une voix qui contredit ce que le gouvernement veut faire. Chaque citoyen a le droit de dire quelque chose sur la marche de ce pays. On ne peut pas tuer quelqu'un pour ses opinions. On ne peut pas arrêter quelqu'un sur ses opinions tant que celle-ci ne pose pas de problème par rapport à la loi. Les opinions que nous donnons, ce ne sont pas des décisions. Si ces opinions sont contraires aux opinions de ceux qui sont au pouvoir, il faut les accepter. C'est ça la démocratie.
Maître Jean-Claude Katindé, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Et notre invité, le président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, Maître Jean-Claude Katindé, s'entretenait avec Grace Hamzati. Fin de ce journal, merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales des Radio Okapi.